savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Cette semaine, nous nous penchons sur une légende du cinéma, une légende qui nous a quittés voici quelques jours. Sean Connery, né le 25 août 1930 et disparu en octobre dernier. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Il aurait pu être maçon, marin, garde du corps. Il a même, dit-on, failli devenir vernisseur de cercueil, lui qui était né dans une famille modeste, fils d'un camionneur et d'une femme de ménage d'Édimbourg. Mais le sort en a voulu autrement. Le sort est bien sûr son talent. Le petit figurant qui courait le cachet dans l'Angleterre des années 50 est devenu un sex symbole mondial et pas n'importe lequel, à la fois synonyme de virilité et de douceur, de raffinement et de brutalité, tempéré par un humour jamais absent, et cet accent écossais qui était sa marque de fabrique, qui joue un prisonnier rebelle chez Sidney Lumet, ou un moine perspicace dans Au nom de la rose. Alors pour en parler aujourd'hui, deux fans. Bonjour Anne Tebbin.
Bonjour Elisabeth.
Critique de cinéma et commissaire d'exposition, hein, nous vous avions reçu il y a 2 ans, je crois, pour votre magnifique exposition sur les comédies musicales à la Philharmonie de Paris. Guillaume Évin, vous êtes l'auteur de Bon baiser du monde, paru aux éditions d'Uno, coécrit avec Laurent Perriot sur une idée, un pitch très original, puisqu'il s'agit en fait de nous faire parcourir le monde sur les traces de James Bond.
Bonjour. Oui, c'est ça. L'idée, c'est voyager avec James Bond sans quitter votre canapé. Donc, vous ne souffrirez pas du jet lag. Et en même temps, vous pourrez profiter de toutes les destinations exotiques parcourues par le héros depuis presque 60 ans. Car James Bond, c'est aussi ça sur grand écran, à savoir un VRP de luxe qui sillonne le globe. Sans jet lag et qui fait découvrir aux spectateurs des terres qui, à l'époque où les voyages n'étaient pas aussi structurés que maintenant, à une époque où les tour opérateurs n'avaient pas encore mis la main sur nos vacances all inclusive, eh bien on découvre donc des contrées comme la Jamaïque ou les Bahamas.
Alors ces contrées, ces destinations exotiques, on va les découvrir bientôt avec vous, Guillaume Évin, et avec vous, Anne Tebbin. Tous les cinémas du monde, émission spéciale Sean Connery, c'est parti. On l'appelait Bond, James Bond. Il avait porté bien d'autres noms, bien sûr, des noms épiques comme le roi Arthur, Robin des Bois et Richard Cœur de Lion, des noms célèbres comme Guillaume de Baskerville, mais c'est 007 qui a fait de lui une star mondiale. Anne Tebbin, Guillaume Évin, une petite question qui partage tous les James Bondophiles. Pour vous, c'est évident que c'est Sean Connery qui est la véritable incarnation de James Bond, Guillaume Évin.
Alors pour les Bondophiles et les Bondolâtres, Sean Connery reste la référence. Il l'est d'autant plus qu'il a été le premier à incarner 007 sur grand écran. Donc forcément, tous les autres interprètes qui lui ont succédé se sont positionnés par rapport à lui. Sean Connery avait une équation personnelle très intéressante puisqu'il a ce côté souple, félin, athlétique. Donc il était suffisamment crédible dans les scènes d'action et en même temps il avait cet aspect magnétique charmeur, il avait un pouvoir érotique fort, si bien qu'il était suffisamment séduisant pour plaire aux femmes. Et donc c'est ce cocktail, ce mélange de force, de virilité fantasmée et tempérée par un humour très, très caustique et puis un regard toujours chargé d'ironie. Et donc c'est ça qui a défini le style James Bond à l'écran porté par Sean Connery.
Et en fait, Ente Bean, c'est un ce que les Américains appellent un late bloomer. Hein, c'est quelqu'un qui s'est épanoui sur le tard. Il a beaucoup tâtonné dans des productions plus ou moins intéressantes. Est-ce qu'on sait par quel hasard, par quel heureux miracle, s'est passée la rencontre entre donc Albert Broccoli, hein, le créateur de James Bond, et Sean Connery? Il paraît que c'était en voyant une production Disney.
Ce qui est intéressant dans la carrière de Sean Connery, c'est que rien ne le prédisposait à cette carrière-là, et d'ailleurs pas le premier James Bond non plus. Moi, je me souviens, si je puis me permettre un petit souvenir personnel, quand j'étais petit, en fait, j'avais pas le droit de regarder les films de James Bond parce que j'étais trop petit. Mais pour moi, il y avait déjà la collection de livres de Ian Fleming qui contenaient tous l'image de Sean Connery. Donc, pour moi, c'était évident que c'était la même chose. Tout cela aurait pu ne jamais avoir lieu. Ce qu'il y a, c'est que Dr. No, au départ, c'est plutôt un film, pas une super production du tout, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une série B ou un film de genre, comme on en faisait beaucoup au début des années 60. Et puis, il y a un casting qui est fait et on propose beaucoup de noms, y compris celui de Peter Finch, par exemple, et des noms de gens assez célèbres de l'époque. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Sean Connery a été accepté, c'est qu'il n'était pas cher. D'ailleurs, la première sortie de James Bond ne s'est pas faite dans une sorte d'explosion. Hein. C'était il était mal distribué, il n'a pas hyper bien marché, mais il y a une sorte de bouche à oreille, d'effet boule de neige, qui fait que petit à petit, ce film est devenu un énorme succès qui a, disons, non seulement provoqué la suite, dont Guillaume va sûrement nous parler, mais aussi provoquer cet engouement extraordinaire pour les livres. C'est-à-dire ensuite, il y a eu un entraînement, les livres paraissant les uns après les autres, entraînant le besoin d'adaptation et réciproquement. Underneath the mango tree, make hulu look so good. La 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 dee da da dee, honey and me.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Who's that?
It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone?
What are you doing here? Looking for shells?
No, I'm just looking.
Stay where you are.
I promise I won't steal your shells.
I promise you won't either. Stay where you are.
I can assure you my intentions are strictly honorable.
Une plage de Jamaïque, du sable blond, la mer turquoise et une sirène en bikini. Vous aurez tous reconnu cet extrait de James Bond contre Dr. No. Donc on est en 62, Sean Connery a 32 ans. Alors vous le disiez, hein, Guillaume Évin, c'est un peu dans ce film qui va poser les canons de James Bond. Hein, c'est-à-dire champion du flirt, mais quand même pas très bavard, séducteur, mais pas rustre, toujours très bien habillé et puis élégant. Alors, même pendant la bagarre.
Oui, alors c'est vrai, comme disait Bean, finalement, ce n'était pas du tout le premier choix. C'était loin d'être évident. Au départ, Broccoli et Salzman pensaient à des acteurs beaucoup plus confirmés. Alors le rêve de Ian Fleming, donc le père littéraire de Bond, c'était de choisir Cary Grant. Et puis Cary Grant était déjà un petit peu âgé, et puis surtout, il ne voulait pas s'engager sur la durée pour une série. Ensuite, on avait pensé à David Niven, mais David Niven était peut-être un non pas efféminé, mais peut-être un peu trop léger pour les scènes d'action auxquelles pensait le duo. Et puis, ensuite, on avait jeté quatre noms comme ça, James Mason, Richard Burton, James Stewart, Trevor Howard, donc que des grands noms, mais ils étaient, c'est vrai, très chers, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a choisi Sean Connery, parce que il était encore largement méconnu, mais il avait quand même la particularité, justement, de pouvoir être Bond et non de jouer Bond. Et ça, c'est ce qui a fait la différence. Parce qu'on pouvait installer le personnage sur la durée. Et les spectateurs s'identifieraient à ce héros.
Et Guillaume Évin, vous parliez effectivement de tous ces acteurs connus qui, un temps, ont été pressentis, mais qui étaient peut-être comme David Niven, un peu léger, peut-être pas assez athlétique. Sean Connery, il a eu un passé avant d'éclater en James Bond. Hein, il a été marin. Il a été aussi champion. Alors, je ne sais pas si c'est de culturisme, hein, c'est ça. Il avait une musculation puissante.
C'est un sacré gabarit, 1m88. Il est très costaud. Il a fait du culturisme. Il s'est même classé 3e d'un concours univers junior. Et effectivement, il aurait pu avoir une toute autre carrière. Je rappelle également qu'il a été repéré par les scouts de Manchester United. Donc à l'époque, le grand Matt Busby, donc l'entraîneur des Reds, s'était dit qu'il ferait un très bon ailier parce qu'il courait très vite. Il était puissant, donc il pouvait résister au marquage. Il était assez adroit. Et à un moment, vraiment, dans les années 50, Sean Connery a hésité. Il s'est demandé s'il allait plutôt pencher pour le foot ou pour le théâtre et le cinéma. Et puis, il avait rencontré Diane Silento, qui sera sa muse et sa femme, et qui va lui conseiller d'opter pour les planches d'abord, et qui ensuite va l'inciter à se tourner vers le cinéma.
Et moi, je voudrais qu'on revienne un peu, si vous permettez, Elisabeth, sur sa carrière avant James Bond, qui est assez intéressante, en fait. C'est-à-dire que il a commencé, effectivement, au théâtre, a joué un petit rôle dans une comédie musicale. Et c'est intéressant parce que, tout au fil, vous allez me dire que je suis obsédé par la comédie musicale parce que j'ai fait une expo dessus. Tout au long de la carrière de Sean Connery, on ne va pas arrêter de le faire chanter. D'ailleurs, il chante dans sa première rencontre avec Ursula Andress qu'on vient d'entendre, et de le faire danser. Souvenez-vous du tango avec Kim Basinger ou de quelques pas parfois de folklore écossais, puisque c'était aussi un fervent défenseur de l'indépendance de l'Écosse. Donc, alors, il est engagé pour un petit rôle dans une tournée en Angleterre d'un énorme succès de comédie musicale qui s'appelle South Pacific. Et là, il hésite encore à devenir acteur. Et le personnage, enfin la vedette du spectacle, lui conseille d'éventuellement envisager de rester acteur et pour ça de se cultiver. Il va lui donner une liste de livres à lire, puisque Sean Connery n'a pas été plus loin que... il a quitté l'enseignement à 13 ans. Il va se mettre à lire comme ça, de manière compulsive pendant 18 mois de tournée. Et à la suite de ça, il lit aussi des pièces de théâtre. Et à la suite de ça, il va décider de devenir acteur, et ça va assez bien marcher quand même pour lui. C'est-à-dire, vous avez dit qu'il avait peut-être été repéré par un rôle, d'ailleurs un rôle chantant dans une production Disney, mais c'était aussi, il a fait une carrière sur les planches, et puis surtout, il est déjà connu du public anglais, enfin britannique, puisqu'il a joué à la télévision, et il a joué, mais pas n'importe quoi, il a joué Macbeth, le rôle-titre de Shakespeare, il a joué le rôle de Vronsky dans Anna Karenine, avec Claire Blum, il a joué le rôle d'Alexandre le Grand, qui va peut-être marquer certains de ses rôles plus tardifs. Donc c'est aussi, je crois, pour les producteurs, la garantie d'avoir un acteur qui n'est pas très cher, et qui peut tout jouer, qui est un excellent acteur. C'est pas uniquement pour son physique qu'on le prend. C'est bon, il y a le charisme, il a sans doute fait des essais, mais il y a aussi une sorte de fiabilité. Il faut que c'est un petit budget encore, et il faut quelqu'un qui réunisse toutes les qualités.
Un homme riche épouse une voleuse, une brune devient blonde. Un cheval et une veste rouge ramènent les fantômes du passé devant la caméra. Tippi Hedren et Sean Connery, derrière la caméra Alfred Hitchcock, pour un film sous les auspices de Freud.
If you don't mind, I'd like to go to bed. I've told you the light from the sitting room bothers me.
Well, we certainly can't have anything bothering you, can we?
If you don't want to go to bed, please get out.
But I do want to go to bed, Marnie.
I very much want to go to bed.
No!
I'm sorry, Marnie.
If you don't mind, I'd like to go to bed. C'était un extrait, bien sûr, de Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock. On est en 1964. Alors, Entebbe, là, c'est une scène culte hein, de ce film que Hitchcock décrivait ainsi. Une femme frigide et kleptomane, démasquée par un homme, se voit contrainte de l'épouser. Alors, racontez-nous un peu cette scène culte. Hein, je le disais, Sean Connery est en robe de chambre, Tippi Hedren est dans une chemise de nuit d'un blanc virginal.
Oui, en fait, c'est une scène de viol. Ce qui est typique de la personnage
arrache...
de Sean Connery,
pardon.
C'est dans ses rapports avec les femmes, que ce soit dans James Bond ou dans plein d'autres films, c'est voilà, il lui arrache, il la dénude. Bon, c'est quand même Hitchcock, c'est un cinéaste classique, donc tout ça est très pudique à l'écran. Mais enfin, on voit qu'il la dénude et qu'ensuite il s'excuse. Et voilà, c'est là, disons, c'est l'envers du héros séducteur conquérant des films de James Bond. C'est un personnage complexe chez lequel apparaît derrière le séducteur qui se croit tout permis, parce qu'en plus il a autorité puisque c'est l'employeur de l'héroïne. Eh bien, il y a derrière ça le héros tendre, compréhensif, quasiment un mentor. Parce que ce rôle de mentor, il va être amené à le jouer jusqu'à la fin de sa carrière. Donc c'est le mentor amoureux. C'est presque un thérapeute. C'est-à-dire à la fin, il prend la place d'un psychanalyste pour révéler les traumatismes qui expliqueront la frigidité de Marnie.
Guillaume Evin.
Alors oui, c'est-à-dire que, en fait, lorsque Sean Connery accepte le projet Hitchcock, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que il était ficelé par un contrat assez léonin avec la saga Bond, qui l'avait enfermé dans un rythme de un Bond film par an, et il avait droit seulement à un autre non Bond film. Et donc Sean Connery va avoir très vite l'intelligence justement de se tourner vers de grands réalisateurs, donc aujourd'hui Hitchcock et plus tard Sidney Lumet, parce que il sait qu'il a autre chose à donner et qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans le personnage de Bond. Avec Hitchcock justement, il va être comme l'a dit Bean, il va être un petit peu à contre-emploi, mais Hitchcock lui aussi va se servir de l'image capitalisée par Sean Connery, puisque là, effectivement, on n'est plus dans le séducteur tranquille, sûr de son charme. Et malgré tout, ça va enrichir son jeu. Donc, Sean Connery prouve qu'il est capable de dépasser 007.
Et on dit même d'ailleurs que Sean Connery avait demandé à lire le scénario de Marnie hein, pour s'assurer que ce n'était pas un film d'espionnage comme La mort aux trousses, soucieux, hein, comme vous le disiez, Guillaume Evin, d'échapper à son image de Playboy. Mais bien sûr, même aux côtés de Sir Alfred Hitchcock, James Bond n'est jamais loin. On le retrouve le temps d'une pause musicale avec Diamonds Are Forever.
Diamonds are forever. I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart
êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde, émission spéciale Sean Connery avec nos deux invités, Guillaume Évin et N.T. Bean. Alors là, on entendait Diamonds Are Forever, hein, c'est l'avant-dernier James Bond. Sean Connery en a fait 7. Et à la fin des années 80, il disait il est presque impossible d'effacer l'image de Bond. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une sorte de rapport d'amour-haine parce que Bond lui a apporté la renommée internationale et dans le même temps, toute sa vie, il a essayé de lui échapper, non ?
C'est ça, c'est un peu le rapport ambivalent que Sean Connery a toujours entretenu avec ce rôle écrasant, car c'est celui qui lui a permis de devenir une star. Et en même temps, il a eu de cesse de vouloir échapper au carcan 007. Pendant un certain temps, il va espérer être associé à la franchise James Bond. Mais il ne sera jamais récompensé de ses efforts et on ne fera pas de lui un coproducteur comme l'est aujourd'hui Daniel Craig, par exemple. Et un petit peu amer de cette situation, Sean n'aura de cesse de quitter la franchise. Comme au préalable, il a posé des jalons intéressants en tournant avec, on l'a vu, Hitchcock, mais aussi avec Sidney Lumet, des 65 dans La colline des hommes perdus, eh bien, il va avoir l'intelligence de choisir de bons réalisateurs, de bons films, et il va comme ça pouvoir montrer qu'il est capable d'autre chose, donc de s'extraire de l'agent britannique.
Elle débite.
En fait, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que évidemment pour le public et pour nous, James Bond lui a apporté une renommée internationale, une réputation, enfin c'est une star planétaire, mais je crois que ce que James Bond lui a apporté à lui de plus important, c'est l'indépendance, c'est-à-dire c'est déjà de l'argent qui lui a permis de gérer sa carrière entre les films James Bond et les films plus risqués, les films d'auteur. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que Pas de printemps pour Marnie a été un échec commercial et que si jamais Hitchcock avait proposé à Sean Connery un rôle à la Mort aux trousses ou Rideau déchiré, c'est-à-dire tous les films d'espionnage que Hitchcock tournait, peut-être que ça aurait cassé la baraque et changé complètement la carrière des deux. Mais il se trouve qu'à chaque fois que Sean Connery fait le choix d'un film hors Bond, même s'il obtient de bonnes critiques, ce qui est important pour lui, hein, si son travail est reconnu, eh bien, les films ne marchent pas. Donc, il refait du James Bond pour pouvoir garder son indépendance et tourner d'autres films, et petit à petit devenir producteur, délégué ou coproducteur des films qui vont le mettre en valeur en tant qu'acteur.
Alors comment mieux déchirer l'image de Gentleman Espion, hein, comment échapper au carcan de 007? Eh bien, je vous propose de partir au milieu du désert libyen pendant la Seconde Guerre mondiale, rejoindre la colline des hommes perdus, voleurs, ivrognes, déserteurs, que du beau monde.
Left, right, 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 left
You know the K-Art House, don't you?
Yes, sir.
You're breaking every rule in the book.
And you live by it, don't you?
We're both regulars. We are the army. What the hell else are we supposed to do?
I live by the book. Part of this and part of under section X, Y, Z, that. The Queen Victoria's dead. It's out of date.
What kind of a soldier are you?
I'm a live one, unless Williams has got other plans for me.
Discipline. The army's run on discipline.
I'm a regular soldier because I couldn't get a bloody job in Civvy Street.
Le face-à-face entre le prisonnier Joe Roberts, Sean Connery, et un officier sadique, responsable de la mort d'un homme. Alors, Entebbe, vous vouliez absolument un extrait d'un film de Lumet, et c'est bien compréhensible, puisque il a été presque l'auteur de prédilection de Sean Connery. Je crois qu'ils ont tourné 5 films ensemble. dont celui-là, La colline des hommes perdus, où il est vraiment extraordinaire. Il joue peut-être comme jamais de son physique très puissant, mais avec une dimension de sadisme et d'humiliation dont vous parliez un peu tout à l'heure chez Marnie et que peu d'acteurs finalement ont accepté d'endosser.
Mais ce qui est absolument frappant quand on revoit aujourd'hui ce film The Hill, c'est que Sean Connery, dedans, c'est vraiment un anti-héros. C'est-à-dire, il est rebelle, il est prisonnier parce qu'il a frappé un officier. Ensuite, on saura qu'il l'a frappé pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que l'officier envoyait ses hommes à la boucherie. Mais en l'occurrence, c'est le rebelle indépendant qui tient tête à l'autorité militaire, quitte à y perdre quasiment son intégrité physique, puisqu'il est blessé, il est humilié, enfin intégrité morale aussi. Et petit à petit, on s'aperçoit que avec le spectateur, cet anti-héros va devenir le héros, c'est-à-dire qu'il va peut-être gagner contre toute cette discipline contre laquelle il se bat, et jusqu'à un final qu'on ne va pas révéler ici, mais qui est ironique et qui revient complètement sur l'éventuel triomphe du personnage. Donc, c'est intéressant de voir que Sean Connery choisit ce film-là et ce rôle-là, qui d'ailleurs va rester l'un de ses films préférés, pour essayer non pas de casser ou de détruire l'image de James Bond, mais de la rééquilibrer. C'est-à-dire que l'indépendance de James Bond, qui d'ailleurs aussi n'en fait qu'à sa tête quand on lui donne des ordres, on va la retrouver. C'est une caractéristique de ce prisonnier dans La colline des hommes perdus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sean Connery va montrer qu'il y a un psychisme torturé, finalement, derrière la façade. Et ça, c'est quelque chose qu'il va continuer d'explorer pendant le reste de sa carrière.
Guillaume Évin.
Oui, j'ajouterais que également dans un autre film de Lumet, il va se comporter finalement un peu comme un anti-héros qui va être broyé par la machine. C'est dans The Offense, qui est un film, un polar un peu méconnu, qui est poisseux, qui se passe dans une banlieue terne, sinistre de l'Angleterre, où il campe un sergent, un policier assez violent, et qui se lance aux trousses d'un violeur de fillettes, un pédophile. Et en fait, le film est concentré sur une nuit d'interrogatoire qui va mal tourner. Et Sean Connery est assez bouleversant dans ce rôle parce que il est rattrapé par ses pulsions, il est écrasé. Et voilà. Et donc, il donne une autre palette à son jeu.
Alors, il y a une chose intéressante dans sa collaboration avec Lumet, c'est qu'ils vont commencer par des rôles, effectivement, enfin, des personnages tellement négatifs que les films ne vont pas marcher. Effectivement, la colline des hommes perdus. Ensuite, The Offense, qui est un film vraiment sur la folie qui s'empare d'un homme qui, en plus, est un homme dépositaire de l'autorité, puisque c'est un policier. Et ensuite, ils vont obtenir un succès avec Le Gang Anderson, qui pointe une autre caractéristique du personnage de Sean Connery à l'écran. C'est que c'est un personnage qui est sans cesse, d'ailleurs dans James Bond aussi, scruté, regardé, contrôlé, épié par le spectateur, mais par le monde entier et par les autres personnages, et qui finalement n'en fait qu'à sa tête. Et c'est ça qui va le sauver. Et ça, c'est, je pense, une dimension intéressante de Sean Connery en tant que persona de cinéma.
Alors, on aura l'occasion, hein, bien sûr, de reparler de la distance que Sean Connery apportait à ses personnages. Mais pour l'heure, on va partir aux confins de l'Inde et de l'Afghanistan sur les traces de l'homme qui voulut être roi, une superproduction de John Huston, où comment un ancien soldat de sa très gracieuse majesté, fils d'un serveur de bar, va partir à la conquête d'une tribu de montagnards en se faisant passer, rien de moins, pour le fils d'Alexandre le Grand.
All right, you got a share? Now what? Where's your high panjandra? Afternoon, your reverence. You said you wanted to see me? Tell him you can keep it, Billy. Tell him I'm making him a present of it.
Ya Moses, ya apkiliye tohfa hai. Now, others of you.
What did he say, Billy?
He say, now we shall see.
You mortals wait down there.
Tell your filthy sergeant to take the paws off me double quick, or by God, I'll have the guts for guts. I'll pluck out your livers and feed them to the kites. How dare you lay your hands on me, Daniel Devon Esquire!
Voilà, L'homme qui voulut être roi, 1975, John Huston. Donc Sean Connery aux côtés de son ami, complice et compère de toujours, Michael Caine. Donc un film assez difficile à définir. Entebbe, là, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un point de bascule. C'est-à-dire, c'est le moment où Sean Connery, donc ex-soldat un peu miteux, va se prendre au jeu et basculer dans la folie, c'est-à-dire se prendre réellement pour le fils d'Alexandre le Grand.
Absolument, mais c'est un film d'aventure. Hein. C'est comme ça que Huston a réussi à le faire financer. C'est une énorme production, mais c'est aussi un film de John Huston. Donc c'est un film sur la vanité du pouvoir et la vanité de la quête. C'est aussi, pour Sean Connery, un buddy movie, puisque il y a une chose qui est quand même très intéressante dans la filmographie hors James Bond, c'est que Sean Connery ne fonctionne jamais aussi bien qu'en buddy, c'est-à-dire en couple avec un camarade, un ami, quelqu'un qui lui sert de un peu de partenaire de tennis à l'écran ou de. Et en effet, c'est peut-être le film qui va le plus loin dans la mégalomanie inhérente au personnage interprété par Sean Connery à l'écran et qui est le résultat finalement peut-être de névroses très profondes qui n'affleurent presque jamais, mais qui sont toujours sous-entendus par le jeu de Sean Connery, puisque en gros c'est l'histoire de deux aventuriers qui essayent d'arnaquer toute une population. Qui vont se faire griser par leur propre jeu, et finalement ça va les perdre tous les deux.
Et c'est le film finalement, parce que Michael Caine et Sean Connery, c'est un peu la tête et les jambes hein, dans le film. Et je disais un film d'aventure, mais avec une veine picaresque, et puis beaucoup de comédie. Et c'est peut-être celui où, justement, avec Zardoz, où Sean Connery pousse le plus loin, joue beaucoup de son côté enfantin. Il a les yeux ronds, il a les sourcils arqués. C'est presque un personnage de BD.
Oui, bah, c'est-à-dire que Sean Connery prend un malin plaisir à se pasticher lui-même, mais ne verse jamais dans une sorte d'auto-caricature. C'est-à-dire, c'est comme si l'humour était inhérent, finalement, à une manière d'être qui lui fait accepter les choses les plus absurdes, tout comme les plus grandioses, mais toujours avec une certaine lucidité.
Alors là, ce film date de 1975. L'année suivante, toujours hors James Bond, Sean Connery tourne dans La Rose et la Flèche hein, de Richard Fleischer, où il incarne un Robin des Bois vieillissant.
Richard Lester.
Face à aussi Audrey Hepburn. C'est un des acteurs d'Hollywood qui a le mieux, enfin j'ai l'impression en tout cas de cette époque, vieilli à l'écran, y compris d'ailleurs avec James Bond qu'il a fini par lâcher le personnage parce qu'il voulait pas non plus, dit-il, l'incarner. Voilà, il se voyait pas faire des cascades à près de 60 ans. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi de la façon dont il a vieilli à l'écran? Je sais pas, peut-être avec Guillaume Évin.
Oui, alors Sean Connery a su vieillir à l'écran, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Je précise quand même que L'homme qui voulut être roi était son film préféré, et pas seulement parce qu'il avait eu la chance de rencontrer Micheline Roquebrune, qui sera sa seconde femme, lors du tournage. C'était une formidable aventure, parce que justement il pouvait jouer sur un registre très 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 varié. Après, ces deux rôles coup sur coup, que ce soit L'homme qui voulut être roi et puis La Rose et la Flèche de Richard Lester, vont finalement le préparer petit à petit à basculer dans les années 80, qui vont être sa décennie fabuleuse sur le plan du box-office, puisqu'il va enchaîner des blockbusters avec, on peut les citer, les Highlanders, Le Nom de la Rose, Les Incorruptibles, pour lequel il va obtenir l'Oscar, son seul Oscar de meilleur second rôle, puis Indiana Jones. Donc ça, c'est ce virage amorcé, d'ailleurs en cela poussé par sa femme, Micheline Roquebrune, mais il y a eu tout ce travail préparatoire des années 70.
Donc effectivement, Guillaume Évin, on pourrait parler de tous ces films, vous en avez cité beaucoup, mais il y a aussi La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Les Inrecuptibles, hein, qui lui vaudra un Oscar, et puis ce film que vous citiez, Le Nom de la Rose, donc il va relancer sa carrière dans les années 80 d'une façon extraordinaire, Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, donc une série de meurtres spectaculaires et mystérieux dans une abbaye de l'Italie du Nord, on est au XIVe siècle, et un moine éminent, Guillaume de Baskerville, Sean Connery, bien sûr, va mener l'enquête épaulée par un jeune novice. Alors on va écouter un extrait du film et puis surtout les souvenirs de tournage de Jean-Jacques Hano, c'est une interview exclusive pour tous les cinémas du monde.
Des années, ou en tout cas des mois, je disais à l'agent de Sean Connery, le très célèbre Mike Ovitz, qui était une espèce de démon, qui était le roi des agents de Los Angeles, cet homme m'appelait tous les 15 jours, il disait, mais JJ, tu devrais voir Sean Connery pour le rôle. Et je lui disais, écoute, je ne peux pas, sur un film qui déjà mêle deux personnages, Guillaume d'Ockham, un franciscain très savant du XIVe siècle, et Sherlock Holmes, je peux rajouter la couche de James Bond quand même. Et ça durait, il me dit, mais non, rencontre-le. Puis finalement, un matin, donc j'arrive dans mon bureau, et mon producteur allemand me dit, écoute, t'as un visiteur ce matin, c'est Sean Connery qui vient te voir. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Ben il me dit, il veut te dire qu'il pense qu'il est très bien pour le rôle. Bon, je ne peux pas refuser, et quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre, et là je vois le vrai Sean Connery, et je me souviens, je me dis, mais mon Dieu, qu'il est beau. Bien sûr qu'il est beau à l'écran, mais la classe, la stature, incroyablement impressionnant en vérité. Et je me souviens, il avait le scénario sous le bras, il me regarde, et il prend le siège en face de mon bureau, et il me dit, listen, boy, avec sa magnifique voix, alors boy, c'était moi, et il commence à ouvrir le scénario, et il le lit. Oh, voilà, moi, c'était ma 17e version, donc je connaissais le dialogue par cœur, et la musique de la voix, elle était dans mon oreille. Et là, évidemment, chair de poule. Parce que non seulement il le lit parfaitement, mais même les intonations, la profondeur, la rigueur du jeu, je l'ai arrêté à la troisième page, je lui ai dit merci beaucoup, c'est formidable. Et là, j'ai cavalé voir mon producteur et on l'a signé tout de suite. Le drame, c'est qu'après, mon grand ami qui était devenu président du cinéma à Columbia, quand je lui ai dit que c'était qu'on avait signé Sean Connery, il a déchiré le contrat. Il a dit non, tu vas briser ta carrière.
Et pourquoi ?
Parce que, vous savez, c'est l'injustice horrible de nos métiers, c'est que d'un seul coup, ben, vous faites un ou deux films qui ne marchent pas, vous êtes bon à acheter au loup. Et c'était le cas. Et moi, alors là, j'ai tenu, et mon producteur, je suis très reconnaissant à son égard, nous avons tenu tous les deux face à non seulement ce grand ami qui était tout à fait disposé à nous aider et à faire le meilleur film possible, mais qui avait été mon agent pendant quelques années et qui m'a dit « tu vas détruire ta carrière ». Il est complètement ringard. C'est d'une violence, vous savez, qui me fait encore mal quand je vous en parle, car il était évidemment tout à fait à l'opposé de ça. Mais il était dans un creux de carrière. Et quand, en plus de ça, j'ai eu le même problème avec Umberto Eco et sa femme. Quand j'ai appris à Umberto que j'avais choisi Sean Connery, il a failli tomber à la renverse. C'était dans une rue à Milan, je me souviens. Il me dit, alors qui tu as pris pour, avec son charmant accent, pour les personnages de Guillaume? Alors je lui dis, je marque un temps, je savais la réaction. Je lui dis, Sean Connery. Il se frappe la tête, il fait, ah, mon Dieu, il se retourne vers sa femme. Renate, tu sais quoi? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris Sean Connery pour faire le genre de Guillaume. Ah, mais non, elle se met à crier, t'es à côté de ma femme et tout. Je me retrouve dans un drame sicilien. Et jusqu'à la fin du film, Umberto Eco était convaincu que le film allait être raté parce que j'avais confié le rôle à Sean Connery. En revanche, quand il a vu le film, il m'a dit la chose que tu as le mieux réussi dans ce film magnifique, Eh ben, c'est Sean Connery. Bravo, tu avais raison de le choisir.
Alors Jean-Jacques Haneau, on aura compris à vous entendre, à vous écouter, que Sean Connery était un homme extrêmement tenace, hein, s'il avait fait le voyage de Los Angeles à Munich pour vous convaincre et apprendre le scénario du Nom de la Rose par cœur. Il était comment dans la vie? Parce que c'est vrai que quand on le voit au cinéma, on a le sentiment que c'est plus un homme un peu taciturne qu'un joyeux luron. Mais est-ce que c'était juste une image de cinéma?
Écoutez, moi j'ai des petits souvenirs incroyablement positifs de lui. J'ai adoré travailler avec lui parce que, au plan professionnel, c'est une Rolls absolue. Vous savez, c'était ce qu'on appelait une Rolls autrefois. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait plutôt citer une voiture allemande. Mais bon, c'est vraiment un acteur immensément facile à diriger, à condition, évidemment, qu'on lui dise le dirige correctement. Et il avait besoin de réponses extrêmement précises. Par exemple, à quelle hauteur je lève le verre? Est-ce que tu veux un centimètre de plus? Un centimètre de moins? Est-ce que je regarde 10 degrés plus à droite? Mais moi, j'adore cette rigueur-là. Et donc, moi, j'ai eu l'impression de vivre un moment d'une grande amitié, d'un grand professionnalisme. Alors, effectivement, il avait la réputation d'être un peu bougon. Il n'a jamais été à mon égard, mais je sais qu'il était assez rude avec les gens de la régie. Il trouvait que, je ne sais pas, l'escalope était arrivée trop froide, ou était trop chaude, ou était trop sèche.
Il avait des exigences de star, de la star qu'il était.
Oui, oui, oui. Mais en revanche, si vous voulez, ce que j'ai constaté qui me charmait beaucoup, c'est que toutes les Bond Girls sont passées par Rome lui dire bonjour. J'assistais généralement à ses dîners et je dois dire que ça le mettait très en forme d'avoir des jolies femmes autour de lui. Il était tout à fait drôle et tout à fait charmant, tout à fait courtois, délicieux. D'ailleurs, je peux vous dire que toutes les femmes du plateau l'adoraient. Jusqu'au moment où elles se sont aperçues qu'elles avaient toutes évidemment reçu des faveurs et qu'elles croyaient être très personnelles. Mais bon, si vous voulez...
C'était le personnage de James Bond qui lui collait au basque.
Vous savez, il était franchement tellement beau, puis tellement beau longtemps. Hein. Moi, je l'ai revu ces dernières années. Il était incroyablement magnifique.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Haneau. Je vous laisse retourner à votre réunion. Juste peut-être une dernière chose, si vous avez un souvenir, un seul, un souvenir sur le tournage du Nom de la Rose, ce serait lequel?
Ah bah écoutez, il y en a un qui m'a bien amusé, c'est que un des premiers plans que j'ai fait, c'était dans de la neige artificielle, mais quand même, il faisait très froid, il faisait genre 3-4 degrés ce jour-là à Rome, puisque j'ai tout fait construire, le décor est entièrement refait construit. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que des taches bleues sous sa coule, au-dessus de ses sandales. Je descends de la tour où j'étais, je vais voir et je vois qu'il avait des soquettes bleues. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces soquettes bleues? Il me dit, mais c'est ta costumière qui m'a donné ça parce que j'ai froid aux pieds. Et je lui dis, attends, c'est pas possible. Les franciscains sont des gens qui veulent montrer aux gens défavorisés qu'ils sont comme eux, c'est-à-dire qu'ils marchent pieds nus dans la neige, éventuellement pieds nus dans des sandales, mais qui sont des sandales en vieux cuir, même pas tannées. Alors il me dit, ce franciscain-là, il porte des chaussettes. Alors comme c'est le premier jour de tournage, là ou bien je me tape des chaussettes pendant tout le tournage, ou bien je risque le clash, et je lui dis, je suis désolé, ton rôle c'est d'être un des grands penseurs du mouvement franciscain, tu ne peux pas, toi, alors que tu...
Porter tes soquettes bleues.
Non, tu ne peux pas porter tes soquettes bleues. Et je lui explique, je lui dis, c'est un vœu de pauvreté. Il enlève ses sandales, il s'énerve un tout petit peu, il tire sur ses chaussettes et il me dit « I hate those fucking monks ». Je déteste ces putains de moines.
C'est un bon mot de la fin. Merci Jean-Jacques Haneau. Those fucking monks. Hein. Il faut croire qu'ils n'ont pas été rancuniers, Ntebin, hein, puisque c'est le film qui a relancé sa carrière dans les années 80. Et effectivement, on parlait tout à l'heure du vieillissement de Sean Connery. On a l'impression qu'il y a deux identités derrière son nom, c'est-à-dire d'un côté James Bond et de l'autre Sean Connery, vieux. Hein, on disait qu'il avait, après tout, on disait qu'il avait les rides les plus sexy d'Hollywood.
Ce qui est intéressant chez lui, c'est que on a l'impression que à mesure que sa carrière avance, il procède par synthèse, c'est-à-dire que chaque nouveau rôle va synthétiser tout ce qu'il a fait avant, et sans l'annuler, sans le remettre en question ou sans le détruire. C'est-à-dire qu'il a été séducteur, il va rester séducteur jusque à 80 ans. Il a été un homme d'action, il va faire des films d'action jusqu'au troisième âge. Il a été un partenaire, parfois second rôle, chargé de mettre en valeur d'autres stars. Et ça, il a continué à le faire. C'est-à-dire qu'à la fin, il alternait entre tous ses emplois et il l'a fait d'une manière extraordinaire. Et moi, dans les rares interviews qu'il a données où il parle de son métier, j'ai retenu deux choses. D'une part, il disait que l'un de ses talents ou l'un de ses dons, c'était qu'il pouvait s'adapter à n'importe quel costume. C'est-à-dire que ce soit un smoking pour James Bond ou que ce soit n'importe quel costume de toute époque, que ce soit le Moyen-Âge, le 19e siècle, la Belle Époque. Et il disait ça, pour un acteur, c'est une force de pouvoir tout porter parce qu'il y a certains acteurs, vous leur mettez une toge et ils sont ridicules. Donc il disait que ça, c'était une force. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est qu'il n'a jamais renoncé à sa voix, à ses intonations et à son accent écossais, y compris quand il jouait le rôle d'un commandant russe de sous-marin qui est sur le point de passer à l'ouest. Donc le côté caméléon, y compris d'ailleurs capable de voyager dans le temps et de porter toutes les tenues et tous les costumes possibles, et d'autre part, la constance de cette voix dont parlait Jean-Jacques Hano d'ailleurs et qui faisait vraiment partie de son charme et de son charisme d'acteur. C'est pour ça que pour tous les auditeurs, ne regardez jamais un film avec Sean Connery en version française ou en version doublée. Regardez-le en version originale, s'il vous plaît.
C'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Ntebin. Prochain livre, prochaine exposition?
Eh bien, oui, si tout va bien, un livre un peu universitaire sur la comédie musicale, puisque c'est le résultat d'un colloque qui a eu lieu il y a 2 ans, et puis ensuite un dictionnaire du cinéma britannique chez Vendémiaire.
Merci beaucoup, merci Guillaume Évin. On conseille vivement la lecture de votre beau livre « Bon baiser du monde » paru aux éditions d'Uno. Mais vous ne nous avez toujours pas dit, vous êtes plutôt James Bondophile ou James Bondolâtre ?
Non, plutôt bondophile, puisque même je dirais bondologue. Je me présente parfois comme un bondologue, plus qu'un bondophile ou un bondolâtre. Évidemment, j'ai mes préférés, mais je cherche avant tout à savoir comment on fabrique un bon film, quels sont les ingrédients qui expliquent la longévité incroyable de cette saga qui demeure le plus gros succès de l'histoire du cinéma.
Merci à tous les deux, merci aussi à Jean-Jacques Hano. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Et rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée aux séries africaines et en particulier à la formidable série sénégalaise Ouara.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin,
Elisabeth Le Quéré.